Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
À Poissy, dans les Yvelines, ce week-end a été consacré à la célébration du 450e anniversaire du colloque de Poissy, sur lequel Franck Ferrand va rafraîchir un peu nos souvenirs. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le colloque de Poissy, voulu par la reine-mère Catherine de Médicis et par le chancelier Michel de l'Hôpital, a eu lieu en effet en septembre 1561, il y a 4 siècles et demi. Il s'agissait d'une grande rencontre entre catholiques et protestants, d'un débat pacifique et qui visait à la réconciliation des deux camps. Autant vous dire que c'était un vœu pieux.
Et d'ailleurs, le colloque en lui-même a été un échec.
Oui, ce n'est pas d'effleurer le sujet que de l'admettre d'emblée, mais imaginons un instant qu'il ait réussi, ça aurait tout changé. N'oublions pas qu'à cette époque, la France a balancé entre rester catholique et basculer du côté protestant. Joël Schmitt le rappelle ces jours-ci dans un essai d'histoire-fiction, et il imagine ce qu'il se serait passé dans l'hypothèse où la France aurait fait l'autre choix.
Alors voilà une discussion passionnante que vous nous promettez.
Mais
si
oui.
Vous souhaitez y prendre part, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent envoyer leur message via le site internet d'Europe 1.
Vous imaginez ça, Julia, la fille aînée de l'Église devenue leader de la réforme en Europe, rien n'aurait été identique.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Septembre 1561, Catherine de Médicis est veuve depuis déjà 2 ans du roi Henri II. Henri II tué, vous savez, d'une lance en pleine tête au tournoi des Tournelles. Son fils aîné, François II, n'a régné que 18 mois et puis il est mort à son tour d'une mastoïdite à 17 ans. Ce qui fait qu'en cet automne 61, le trône est occupé par le deuxième fils de la reine, Charles, âgé de 10 ans. Il vient d'être sacré, mais sa mère n'en assume pas moins la régence. Or, jamais le royaume de France n'a été divisé à ce point entre, d'un côté, des catholiques en pleine régression, mais dans une France qui reste la fille aînée de l'Église, et de l'autre, des protestants chaque jour plus nombreux et maintenant majoritaires, ne serait-ce qu'à la cour. L'année précédente, à Amboise, leur conjuration a été noyée dans un véritable bain de sang. Il n'empêche, la plupart des grands seigneurs sont passés à la réforme, à l'instar du premier prince du sang, Antoine de Bourbon, lieutenant général du royaume. Cela, Catherine le sait mieux que quiconque, et elle ne demanderait pas mieux que de s'en accommoder. Après tout, Catherine s'entend bien avec les chefs protestants. Seulement pour ça, il convient d'apaiser quelques tensions. La reine régente veut à tout prix rabibocher protestants et catholiques, et voilà pourquoi, en ce matin du 9 septembre, elle a quitté son château de Saint-Germain-en-Laye pour se rendre en Coche. Ça, c'est une grande innovation de l'époque. Jusqu'alors, on se promenait essentiellement en litière ou à cheval. Eh bien, elle est en carrosse, si l'on peut dire, la reine Catherine. Elle arrive donc à Poissy. Chez les dominicaines de cette ville se tient en effet une assemblée du clergé, assemblée consécutive à l'assemblée des États qui avait été réunie, elle, à Pontoise un petit peu plus tôt. Toutes ces assemblées n'ont qu'un objet, fondamentalement, c'est de trouver de l'argent pour sauver le trésor royal, qui est vraiment mal en point. Mais en l'occurrence, la reine régente espère aller plus loin. Si Catherine de Médicis vient elle-même à Poissy, Poissy c'est la ville où Saint-Louis jadis a été baptisé, c'est qu'elle a senti les représentants de l'Église assez bien disposés pour faire un pas en direction de la réforme. Et elle a eu l'idée de les convier à discuter sur le plan de la théologie avec un certain nombre de prédicateurs calvinistes. La conviction de Catherine, c'est que les violences, et qui sait la guerre civile, ne sauraient être le fruit que d'une ignorance mutuelle des deux camps. Aussi en est-elle persuadée qu'on laisse ces gens s'expliquer entre eux, se connaître un peu mieux, débattre, s'entendre, et la paix religieuse reviendra en France. Disons-le, c'est un point de vue qui pêche par naïveté et qui tient assez peu compte des rancœurs accumulées de part et d'autre et qui oppose à tout niveau les fidèles du pape aux adeptes de Calvin. Il est vrai que la foi de la Florentine s'accommode de bien des compromis au quotidien et Catherine doit supposer qu'il en sera de même pour tout le monde. la reine régente a exigé, par politique autant que par faveur, de prendre avec elle, dans sa voiture, les champions des deux camps en présence. Le cardinal de Lorraine, qui est le frère de l'ambitieux et belliqueux duc de Guise, et Théodore de Bèze, proche de Calvin, l'un des chefs de file de la Réforme. Elle compte sans doute sur leurs éducations respectives, sur leur intelligence stratégique, etc., pour mettre un peu de dignité et de souplesse dans les débats. Et de fait, le voyage se passe sans heurts. Il est pimenté de saillies un petit peu crues, mais assez convenable pour ne pas laisser redouter le pire. Messieurs, proclame la reine-mère alors que le coche aborde le couvent, nous sommes à la veille d'une réconciliation générale. Vous en serez les artisans et le mérite vous en reviendra. C'est à vous, madame, qu'il faudra porter son crédit, flatte le cardinal. À condition, fait observer l'envoyé de Genève, qu'il y ait un crédit.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui nous plonge il y a 450 ans quand le dialogue était renoué entre catholiques et calvinistes.
Et oui, on appelait ça le colloque de Poissy, c'était en septembre 1561. Alors, à Poissy, le réfectoire des dominicaines a été transformé pour la circonstance, on en a couvert les grands murs de tenture et tout au fond, sur la tribune de velours bleu semée de lys d'or, vont siéger en majesté l'enfant roi Charles IX, dont on parlait l'autre jour, mais 10 ans plus tard, lui-même fleur de lycée, sa mère, la reine régente, en robe noire à long voile, et puis le petit duc d'Anjou, le frère du roi, c'est le futur Henri III, sa sœur Marguerite de France, le roi et la reine de Navarre, etc. Derrière eux, tout un aréopage de dignitaires dont plusieurs sont farouchement convertis à la Réforme et devant eux, tout un carré de prélats et de théologiens en grande majorité catholiques. Les quelques débatteurs calvinistes se trouvent assis à gauche de la tribune. Eux vont devoir, pour s'exprimer, se lever et venir parler à une barre, comme les témoins d'un procès, si vous voulez. Ils ont protesté, naturellement, contre ce dispositif, mais Catherine n'a rien voulu savoir. « Allons que les débats commencent », a-t-elle ordonné, en dissimulant son impatience. Il faut l'imaginer, cette reine régente, au port majestueux, elle rayonne. Elle est si près du trône où siège son tout jeune fils, dévoué à cette cause de modération qui, à ses yeux, se confond avec la cause de la monarchie elle-même. Tandis que le nouveau chancelier Michel de l'Hôpital rend hommage à titre préliminaire aux qualités de prudence et de clairvoyance de la reine-mère, celle-ci est certaine de toucher enfin du doigt une forme d'accomplissement. Enfin, et malgré tous les obstacles, toutes les entraves subies au cours d'une vie difficile, la voilà installée dans cette position souveraine qui d'instinct lui convient, elle est devenue vraiment le maître du royaume. Le colloque de Poissy s'ouvre sur une dispute à propos de l'Eucharistie. Le cardinal de Lorraine a pris soin de se montrer modéré dans son exposé. Lui qui, naguère à Amboise, applaudissait au pire supplice contre les Huguenots, voilà qu'il marche sur des œufs. À propos de la présence réelle du corps du Christ dans l'hostie, il se contente d'affirmer mollement la communion réelle avec le Christ. Au moment où il se rassoit, Catherine manifeste qu'elle apprécie son effort de pondération. Vient le tour de Théodore de Bèze. Avec ses longues moustaches pendantes et sa grande barbe, nous dit Joël Schmitt, la tête recouverte d'un bonnet noir comme en porte Calvin, il ressemble quelque peu à ce dernier. Après des propos conciliants, Théodore de Bèze dit ne reconnaître que deux sacrements, le baptême et la communion, ce qui revient à réfuter implicitement tous les autres sacrements de l'Église. Il est vrai que le représentant de Genève a reçu de Calvin lui-même la consigne de pousser l'adversaire à bout. Mais Théodore de Bèze va plus loin. Au cours de la discussion qui s'engage sur l'Eucharistie, et alors qu'un compromis semble se dessiner, sur la présence conjointe dans l'hostie du pain et du corps du Christ, l'orateur protestant reprend au dernier moment la parole pour écorner de manière délibérée le dogme catholique. « Le corps du Christ, clame-t-il, est aussi éloigné du pain et du vin que le plus haut ciel est éloigné de la terre. » Les représentants de Rome, qui jusque-là étaient souriants, affables, ont pâli. Ils affichent un air indigné devant tant d'intransigeances. Du reste, le cardinal de Tournon, qui est l'émissaire du pape, ne se contente pas de mimiques. Il se lève de manière solennelle et il hurle dans le réfectoire le mot terrible « blasphème à vite ». Il a blasphémé. C'est une condamnation qui est reprise par les uns, huée par les autres, dans un véritable déchaînement d'insultes.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous sommes précisément en 1561, au cœur du colloque de Poissy. Franck.
Et oui, c'était il y a 450 ans, quasiment jour pour jour. Alors vous avez bien compris que ce colloque de Poissy était très agité, puisque Théodore de Bèze a jeté un pavé dans la mare, si j'ose dire. Et pour ne pas assister à ce qui se présente comme un véritable pugilat, Catherine et son fils font mine de quitter le réservoir. Finalement, la houle s'apaise, chacun reprend sa place. La reine régente a compris que son colloque risquait de ranimer la guerre. Alors, voyant le cardinal de Lorraine qui se lève pour répondre à Théodore de Bèze, elle devine que le prélat va revenir sur un récent blasphème imputé au prédicateur. Alors, elle se lève elle-même pour l'empêcher de parler. Elle interdit à quiconque de faire allusion à des propos qu'elle qualifie de mensongers. L'assemblée est interloquée, mais du moins le colloque est sauvé. Il va pouvoir reprendre une semaine plus tard avec la création d'un comité de 24 représentants, 12 de chaque camp, pour trancher des questions de la hiérarchie cléricale et de l'Eucharistie. Vous avez bien compris le principe de ce colloque, c'est d'arriver à trouver un certain nombre de points communs entre catholiques et protestants pour éviter la guerre qui se prépare. Cette décision royale est néanmoins violemment critiquée par le supérieur des jésuites au nom de l'autorité du pape, qui serait seule habilité à trancher sur ces questions. Catherine finit par nommer un comité restreint de 10 membres seulement, chargé de trouver simplement un terrain d'entente sur la question de l'Eucharistie. Ça devient vraiment minimal. Évidemment, aucun accord ne sera possible. Qu'à cela ne tienne, le colloque de Poissy n'en aboutira pas moins à la promulgation, le 17 janvier 1562, du fameux édit de Saint-Germain, qui reconnaît le protestantisme en France en échange de la part des pasteurs réformés d'un serment d'allégeance au roi et à ses représentants. Preuve, s'il en fallait une, que l'obsession séculière de Catherine de Médicis dans toute cette histoire, ça reste bien la sauvegarde de l'autorité royale. Pour les Guises, l'indulgence de la reine régente envers les Huguenots a sonné le signal du départ. Le célèbre Balafré, ses frères cardinaux, le duc d'Aumale, mais aussi les grands seigneurs de leur mouvance, on les appelait à la cour ceux de Guise, bouclent leur mal sans que Catherine ne songe sérieusement à les retenir. Ce que je crains, a lancé le cardinal de Lorraine lors d'un ultime souper, c'est que cette Florentine ne donne tout le pouvoir à Coligny, l'hôpital et leur clique, et qu'elle n'en vienne avec le temps à convertir la monarchie capétienne fille de Rome en une monarchie calviniste prenant ses ordres à Genève. « Nous ne la laisserons pas faire », a lancé François, le chef de famille. « Ah non ? Et comment pourrions-nous agir depuis Nancy et la Lorraine ?» C'est pour répondre à cette question qu'un plan est mis sur pied, le plus audacieux jamais conçu par ce clan diabolique.
Pour violoncelle en sol majeur, Jean-Sébastien Bach sur Europe 1, Franck.
Un musicien protestant, comme vous l'aurez constaté. Le duc de Guise avait un fils aîné, Henri, que ses 11 ans rendaient assez proche du jeune duc d'Anjou, vous savez, le petit frère du roi. Alors, le père d'Henri, le duc de Guise, l'a bien chapitré, et le garçonnet va tenter, avant le fameux grand départ de sa famille, d'effrayer son compagnon de jeu sur la question du complot huguenot. C'est à ce moment-là qu'entre en scène le duc de Nemours, qui est encore jeune, qui est très aimable. C'est un chevalier qui a noué des liens avec le jeune duc d'Anjou, et on voit le futur Henri III porter sur lui un véritable, un regard ébloui. Profitant de sa charge à la tête des gardes suisses, Nemours parvient à isoler le jeune prince un moment et il se met à lui parler dans les yeux des dangers qu'il court. « Croyez-moi, monseigneur, dit Nemours, je tremble pour vous et les vôtres. Oh, » L'enfant n'est pas si naïf, il se contente de hausser les épaules. « Parlons clair, monseigneur, êtes-vous calviniste ? » Je suis de la religion de ma mère. Réponse habile de la part d'un enfant de 10 ans. Nemours insiste. Si vous étiez calviniste, je ne m'inquiéterais pas. Seulement, vous ne l'êtes pas. Et quand ces gens qui préparent un complot contre la famille royale se seront emparés du pouvoir, ils vous le feront payer. Vous serez tués. Voilà ce qui m'effraie. Nous verrons bien, conclut le duc d'Anjou avec un sang-froid très au-dessus de son âge. Nemours passe au chantage affectif. Suis-je ou non votre ami, monseigneur, demande-t-il. Vous l'êtes, concède Anjou. Alors il y aurait un moyen, déclare Nemours. Votre ami, le jeune Henri de Guise, va suivre ses parents à la cour de Lorraine. Et vous savez qu'on mène là-bas la vie la plus agréable. Vous-même, si vous vouliez le suivre, pourriez connaître le bonheur d'être le premier après Dieu. Ici, en France, vous ne serez jamais que le frère du roi, le second, l'oublié. Là-bas, chacun vous traiterait en futur roi que vous êtes. Vous échapperiez au sort affreux qui vous attend ici et bénéficieriez en même temps. Et là, le duc de Nemours s'interrompt. Il vient d'apercevoir, un peu caché par une tapisserie, deux dames silencieuses qui, visiblement, espionnent pour le compte de la reine régente. « Enfin, conclut-il, nous en reparlerons. Gardez pour vous ce que j'ai dit. » Mais sitôt seul, le petit duc d'Anjou n'a rien de plus pressé que d'aller trouver sa mère pour lui raconter cette conversation. Dans le détail, pour une mère, rien n'est moins pardonnable que le projet d'enlèvement de son enfant. Cependant, Catherine de Médicis est trop habile. Elle est trop prudente aussi pour retarder un départ qu'elle a tant espéré. Elle choisit de garder pour elle les révélations de son fils préféré. « Maman a quand même demandé l'enfant. C'est vrai que les Huguenots vont venir nous tuer ? Croyez-vous que si c'était le cas, je ne vous enverrais pas le plus loin possible ? » répond-elle. Catherine n'en dit pas plus, mais en son fort intérieur, elle sait que le divorce est consommé entre les Guises, champions du catholicisme, et la couronne de France. Or, quelques semaines plus tard, le 1er mars 1562, le duc François de Guise se trouve de passage à Vassy, non loin de Saint-Dizier, et il entend à ce moment-là, venant de l'intérieur du bourg, des chants qui paraissent émaner d'un office protestant. Alors, sous le prétexte que cette chorale protestante l'empêcherait d'entendre paisiblement la messe, il réunit une petite armée et décide de chasser les quelques centaines de Huguenots qui sont là, du village de Vassy. Quand je dis chasser, exterminer serait plus juste. L'opération vire au massacre. Plus de 50 personnes sont tuées, une bonne centaine blessées. Et bien entendu, la nouvelle de ce massacre va se répandre comme une traînée de poudre dans tout le royaume. C'est une nouvelle qui rend aussitôt illusoire les belles tentatives d'apaisement de Catherine de Médicis. Eh bien, ce massacre de Vassy, il va donner le signal d'une véritable guerre civile. Il marque le commencement de la première des 8 guerres de religion qui, pendant près de 40 ans, jusqu'en 1598, vont ensanglanter la France et jeter sur son histoire une ombre définitive. Et si le colloque de Poissy avait réussi ? Et si la régente Catherine avait fait en sorte que la France devienne protestante ? Bref, si la France était devenue protestante, c'est la question que se pose Joël Schmitt dans un livre passionnant qu'il vient de publier et dont il va nous parler dans un instant.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
La Saint-Barthélemy n'aura pas lieu. Et si la France était devenue protestante chez Albin Michel, c'est le titre du livre de votre invité aujourd'hui, l'historien Joël Schmitt.
Oui, on va faire un peu d'histoire-fiction aujourd'hui. Alors, ce week-end même, à Poissy, bien entendu, s'est tenu un colloque. C'était samedi et dimanche au théâtre de Poissy. Colloque sur le colloque, si l'on peut dire. Et puis, dans l'enclos de l'abbaye, au musée du Jouet de Poissy, a lieu depuis vendredi et jusqu'à l'été prochain une exposition sous-titrée « Dialogue et tolérance », c'était bien l'obsession de la reine Catherine au moment de ce colloque de Poissy. On peut dire, Joël Schmitt, qu'elle a eu vraiment beaucoup de mal à se faire entendre dans cette affaire.
Oui, alors il y avait elle et puis il y avait Michel de l'Hôpital qui lui même avait même écrit un traité sur la tolérance. Il faut se retrouver dans cette époque et se dire que parler de la tolérance au XVIe siècle, c'est une révolution intellectuelle et spirituelle et morale tout à fait extraordinaire. Et
mais ce qu'il faut dire aussi, que vous montrez admirablement, c'est qu'autour de Catherine, l'état d'esprit général avait changé et que les plus hauts seigneurs de la cour de France s'étaient peu à peu convertis à la réforme. Ce qui est étrange, c'est que chez le roi très chrétien, le roi catholique absolument, hein, le roi de France qui était bien entendu le premier des fidèles du pape, la cour même, la cour de France, elle, était protestante.
Tout à fait, et vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, tous les grandes de la famille, les La Rochefoucauld, les Leroy, parler des Bourbons et des Condés. Bon, les Bourbons, on le sait bien, puisque Antoine de Bourbon est le père de Henri IV. Donc, c'est vrai qu'ils se sont convertis au protestantisme. Peut-être pour des raisons politiques, pour contester peut-être justement la prééminence royale peut-être un peu trop forte pour eux. C'est peut-être une réaction de féodaux par rapport à leur territoire. Ça, c'est tout à fait possible. Mais enfin, quand même, je pense qu'il y a eu un éclairage, un éclaircissement des esprits à ce moment-là, et qu'on se dit, après tout, le protestantisme est peut-être une religion...
Alors, ce qui est étrange,
le formalisme du catholicisme.
Voilà. Il faut savoir que toute l'Europe de l'Est, du Nord, évidemment l'Angleterre depuis longtemps, ont basculé eux dans le luthérianisme. Pas tout à fait la même chose, mais enfin en tout cas, ils sont protestants. Donc rien ne permet de penser que la France ne va pas elle aussi devenir protestante. Je vous ai dit, enfin, vous nous dites que tous les seigneurs de la cour sont eux-mêmes devenus, enfin, beaucoup sont devenus protestants. Il y a toujours la famille de Guise, hein, qui tient bon, les, hein, les princes lorrains.
C'est une histoire particulière. Je vous le dis dans mon livre, pourquoi l'hostilité des Guises et vice-versa de Catherine de Médicis et de Guise? Parce que les Guises se disent descendants beaucoup plus anciens que les Valois, que les Capétiens de la noblesse. C'est-à-dire que c'est eux qui devraient être, ils sont descendants des Carolingiens, donc c'est eux qui devraient être.
Il devrait être donc il y a bien donc, une querelle dynastique aussi. Et voilà. Catherine est tout à fait consciente que ce sont des princes lorrains qui guignent la couronne, qui pourraient tout à fait la cindre, et donc elle a une peur bleue des Guises et elle est ravie de les voir quitter sa cour. Au moment du colloque de Poissy, donc on est exactement il y a 450 ans, hein, dans ce début du mois de septembre 1561, tout laisse entendre qu'il va y avoir entente entre catholiques et protestants, puisque les orateurs catholiques, à commencer par le cardinal de Lorraine, qui pourtant est le frère du duc de Guise, chef de la maison, tous les orateurs catholiques sont d'une modération incroyable, et c'est paradoxalement l'orateur, le principal orateur protestant, Théodore de Bèze, qui va jeter de l'huile sur le feu.
Oui, la fameuse gaffe dans cette phrase dont vous avez dit, c'est aussi éloigné, qui est reprise
en parlant d'ailleurs... c'est sur la question de la transsubstantation, consubstantation.
Bon. Et oui, c'était aussi éloigné que... Et il en a dit une autre, prétendant que je parle d'ailleurs, dont je cite dans mon livre, c'est en faisant une sorte de jeu de mots sur Soena, c'est-à-dire Sena et Coena, qui veut dire fumier, que finalement l'Eucharistie n'est pas plus éloigné du ciel, de la Seine, que du fumier. Donc, alors évidemment, Charles de Lorraine reprend évidemment cette phrase.
Le cardinal de Tournon, moi aussi.
La phrase dont vous avez dite, et qu'il a dite aussi d'ailleurs. Mais donc là, il y a vraiment un coup. Il y a une gaffe, je dirais.
C'est une gaffe volontaire ou involontaire? C'est quand même une grande question. Parce qu'il semblerait que Calvin ait poussé à l'affrontement.
C'est ce que vous avez dit. Ouais. Je crois que c'est vrai. Je crois qu'il a probablement poussé à l'affrontement. D'ailleurs, il était invité, lui.
Il
a eu peur pour sa vie. Il s'est dit je vais avoir peut-être tous les sauf-conduits, mais je ne suis pas sûr d'arriver vivant à Poissy.
Donc le colloque échoue, les Guises quittent la cour, c'est bientôt le fameux massacre de Vassy dont on a parlé, qui est l'acte fondateur de ce qu'on va appeler les terribles guerres de religion en France. Et à partir de ce moment-là, on connaît la suite, ces guerres de religion qui aboutiront finalement à la conversion du chef des protestants, puisqu'il devient catholique pour devenir roi de France, c'est Henri IV. Et à partir de là, alors édit de Nantes, certes, c'est-à-dire tolérance religieuse pour les protestants, transformé par Louis XIII en grâce d'Alès, et puis révocation, non pas de l'édit de Nantes, comme on dit toujours, mais bien de la grâce d'Alès, en 1685 par Louis XIV, qui va amener à cet extraordinaire exode des protestants de France. C'est le début d'un raidissement catholique très dur qui durera jusqu'à la Révolution française. Or, ce que vous dites, vous, c'est qu'il s'en est fallu de peu, et qu'à quelques petits éléments près,
les protestants ont bien failli gagner, la France a bien failli rejoindre le camp déjà très dynamique de ces monarchies nordiques qui, elles, étaient déjà devenues protestantes. Et si la France était devenue protestante, eh bien, si vous le voulez, en compagnie de Joël Schmitt, nous allons dans un instant nous poser cette question.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Un extrait de Freischütz, composé par Karl Maria von Weber.
Le Freischütz qui a été pendant très longtemps le générique d'une des plus célèbres émissions d'histoire à la radio. C'était sur le service public, ça s'appelait la Tribune de l'Histoire. Et c'est un petit clin d'œil à Alain Decaux au moment de quitter les rails de l'histoire classique pour aborder celle de ce que vous appelez, ou ce que les anglo-saxons appellent, Joël Schmitt, l'histoire alternative. Vous vous êtes donc amusé à imaginer ce qu'aurait pu être l'histoire de France si, à partir du colloque de Poissy, tout avait bifurqué et que les protestants aient gagné. Ça veut dire beaucoup de choses.
Oui, c'est faut avoir beaucoup d'imagination, être plausible et fiable et que ça soit crédible aussi. Donc, j'ai évidemment imaginé que tous les rois de France qui vont se succéder sont protestants. Louis XIII est protestant. Richelieu n'est plus un cardinal, c'est un pasteur. Bossuet n'est plus un évêque puisqu'il n'est pas cardinal, nous le savons. Et c'est aussi un pasteur. Que Louis XVI, je saute très vite, mais c'est parce que c'est
mais
le
Louis XVI,
important.
Qui quand même est le monarque le plus catholique quasiment de l'histoire de France.
Là, il est quand même le petit-fils, il descend d'une monarchie protestante, donc il devient un protestant et il accepte surtout, ce qui est très, très important, il n'y a pas de révolution française au sens propre du terme, mais c'est une révolution politique.
Alors quand même, il y a eu des révolutions dans un certain nombre de pays protestants, ça peut arriver tout de même.
Il y en a eu.
Je pense à l'Angleterre, tout bêtement, bien sûr.
Oui, absolument. Charles Ier, qui était d'ailleurs l'époux de Henriette de France, la sœur de Louis XIII. Donc, oui, c'est une révolution de faire de la monarchie de droit divin une monarchie constitutionnelle. Car c'est ce qui va se passer avec Louis XVI. C'est-à-dire qu'il va prendre, il aura comme Premier ministre, bien entendu, Robespierre. Nous avons parlé d'ailleurs ici.
Ça aurait été tout à fait possible, puisque vous nous avez dit vous-même, Joël Schmitt, lorsque nous parlions de Robespierre, qu'au départ, Robespierre était tout à fait dans les rails. Hein. Il était au collège de...
Tout à fait. Et il avait fait même ses compliments à Louis XVI après le couronnement de Louis XVI. Il était d'ailleurs, lors d'un des cahiers de doléances et des états généraux, il est très très pro-monarchique. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas.
Alors, évidemment, vous vous êtes amusé et je vous avoue qu'on s'amuse beaucoup en lisant votre livre, surtout quand on connaît déjà bien l'histoire de France. On voit tous les... Parce que plus ça avance et plus on s'éloigne, évidemment. Mais néanmoins, et ça c'est le parti pris de ce type d'histoire alternative, c'est très anglais comme démarche, vous revenez néanmoins sur des événements comme s'ils avaient eu lieu néanmoins, sous une autre forme, simplement. Par exemple, Napoléon, pour vous... existerait malgré toute cette histoire.
Tout à fait, parce que alors Napoléon, encore tant que Corse, le protestantisme ne lui dit pas grand-chose. Donc il refait la France catholique et il met à bas le trône de Louis XVI, qui est obligé de partir en exil. Le dédit Louis XVI, d'ailleurs, mourra à la bataille de Waterloo en essayant de reconquérir son trône. Il ne sera pas évidemment guillotiné. Il y a une phrase que je cite d'ailleurs et qui est authentique, je n'ai pas inventé, de Napoléon.
Ça, c'est à Sainte-Hélène, hein, c'est Napoléon. Qui revient sur son passé.
Voilà, et il dit évidemment, pourquoi je ne me suis pas fait protestant, que la France n'a pas été protestante. Il le regrette. Donc, vous voyez, j'ai presque rien inventé. Mais j'ai été obligé, je l'ai fait en fait parce que le concordat est quelque chose de très important. Et c'est à cause du concordat que je
Quels
l'ai fait.
Quels sont les grands personnages protestants de l'histoire réelle de la France, hein, de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée? Il faut quand même le rappeler aux auditeurs.
Il y a ceux qui ne se sont pas convertis. Je pense à Henri IV, bien sûr, mais je pense aussi, bien entendu, on pense tout de suite à Guizot. Hein. Guizot,
le grand
premier ministre
de Louis-Philippe. Et qui, d'ailleurs, est l'un des pères de l'histoire
absolument,
telle que nous la considérons.
Qui a d'ailleurs écrit des livres d'histoire que j'ai chez moi, d'ailleurs, effectivement. Mais il y a aussi des... Alors, il y a tous les grands banquiers, les Schlumberger, les Loflis, etc. Tous les industriels. Et alors, surtout, alors, il y a une famille dont je parle beaucoup, c'est la famille des Coquerel. Bon, ils ne sont c'est pas connus public ou d'une manière publique, mais ce sont alors des gens qui ont compris que la paupérisation de la France, ou du moins de la classe ouvrière, et à cause de l'industrie, puisqu'ils sont en tête de l'industrie. Ne pas oublier que même aujourd'hui, les Peugeot sont des protestants. Donc, ils tiennent sous Louis-Philippe, on peut dire, l'élite protestante qui représente 2%, tient vraiment tous les rênes affaires.
C'est assez
étonnant. Et donc, il n'y a rien à changer.
Pour rectifier une erreur que j'ai commise tout à l'heure, on peut dire que c'est un aréopage. J'ai dit aéropage tout à l'heure, dans la précipitation du récit. C'est...
Donc, tous les protestants sont là, sont présents. Ça m'a d'ailleurs étonné quand j'ai fait surtout le 19e siècle. Je me suis dit, mais finalement, je n'ai pratiquement rien à changer. Ils tiennent les rênes du pouvoir.
Plus,
ils sont
plus près de nous, il y a.
Ils représentent beaucoup plus que cela.
Plus près de nous, il y a Michel Rocard, par exemple.
Michel Rocard, premier ministre.
Parmi les grandes différences que ça pourrait faire, il y a la question de la révolution industrielle et de l'économie. Car évidemment, la France, pays rural et catholique, ne ressemble pas à ce qu'aurait pu être la France, pays industriel et protestant.
Non, parce que, effectivement, d'abord, économiquement, j'en parle, nous ne sommes plus dans le colbertisme et dans le protectionisme, nous sommes dans le libre-échange.
Le libre-échange, ça change tout.
Ne pas oublier, évidemment, le Max Weber et le protestantisme et la naissance du capitalisme. Les deux sont liés. Donc, nous sommes dans un autre système économique, effectivement.
Avec une Europe du Nord qui se construit contre l'Europe du Sud, Espagne, Autriche, voilà. Enfin la maison de Habsbourg.
Contre Habsbourg, qui sont des catholiques. Enfin, l'Europe est majoritairement protestante, comme elle est d'ailleurs encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans ma conclusion, et même très souvent dans mon livre, je fais allusion à cette Europe qui aurait pu se construire, probablement pas seulement maintenant, mais entre l'Allemagne et la France, par exemple.
Je ne m'étais jamais posé la question, je vous l'avoue, très honnêtement, Joël Schmitt, mais grâce à votre livre, ce qui est très intéressant dans ces travaux, hein, dans ces exercices d'histoire-fiction, c'est que ça permet de se poser toutes sortes de questions. Et je me suis dit, mais après tout, est-ce que le mouvement d'intégration européenne tel qu'il existe depuis le milieu du XXe siècle, et essentiellement depuis le traité de Rome de 1957, n'est pas un mouvement essentiellement, intrinsèquement protestant, qui a beaucoup de mal à s'imposer à des pays catholiques comme l'Italie ou la France, d'ailleurs.
Je crois que c'est la conclusion, et de mon livre et de cette hypothèse. Il est impossible aux pays protestants. J'ai évité beaucoup de guerres, si vous voulez, dans mon livre.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup moins de guerres.
Parce que les protestants peuvent pas se faire leur guerre entre eux. Bon, ok, le cardinal de Richelieu était assez cynique et réel politique pour s'allier au prince protestant.
Il avait un petit côté protestant quelque part. Oui,
mais c'est assez que je pense que nous aurions commencé à les embrassades d'un président de la République avec une chancelière allemande, et ben ne serait plus de commencer dès le XVIIe siècle.
Sans compter qu'on aurait peut-être fait l'économie de la République en tant que telle, qui d'ailleurs s'est largement construite par anticléricalisme contre l'Église catholique, ne l'oublions pas. Alors bon, on pourrait aller très loin, c'est ce que vous faites vous du reste dans cette histoire. Pourquoi est-ce que vous vous arrêtez en 1905, justement?
Alors, c'est parce que mon directeur de collection, Jean Moutapa, me l'a dit. Je ne me suis pas arrêté tout à fait.
Vous y allez plus loin, vous.
J'ai dit qu'il n'y aura probablement pas eu de première journée mondiale, mais il m'a dit, fais attention.
Vous le dites, parce que vous le dites très vite, qu'il n'y aurait probablement pas eu de première et de seconde guerre mondiale.
Mais il m'a dit, fais attention, il y a les monuments aux morts qui sont là. Il y a les petits-fils, les arrière-petits-fils et tous les descendants des poilus qui sont morts. C'est impossible que tu rayes cela de la carte de l'histoire française.
C'est par contre,
absolument. Alors l'Église, la séparation de l'Église et de l'État est préparée par les protestants. Moi, ça m'arrange assez. Donc cette conclusion sur cette séparation de l'Église, cette laïcité qui est toujours d'ailleurs en cause, même dans les campagnes électorales. Donc cette laïcité m'arrange plutôt. Voilà.
La célèbre peinture de Robert Fleury-Joseph, Robert Fleury-Joseph Nicolas, c'est un peintre pompier du 19e, qui présente le colloque de Poissy, figure sur la couverture de votre ouvrage, La Saint-Barthélemy n'aura pas lieu de Joël Schmitt, c'est chez Albin Michel. Ce colloque de Poissy, nous célébrons en ce moment même son 450e anniversaire. Et je vous rappelle donc qu'à Poissy même, au musée du Jouet, dans l'enclos de l'abbaye, a lieu une exposition qui durera jusqu'à l'été prochain sur ce colloque de Poissy, Dialogue et tolérance. Vous voyez que l'histoire alternative pose beaucoup de questions et peut nous emmener très loin. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck. Alors du colloque de Poissy, nous allons passer à un autre type de colloque, au féminin cette fois, la colocation entre seniors et intergénérationnels. Qui ça concerne? C'est un phénomène de société de plus en plus en vogue en ce moment pour les seniors de plus de 50, 60, 70 ans. Pourquoi cet engouement? Eh bien, on en parle tout à l'heure avec les experts. Et puis, on attend vos questions au 3921 ou sur europe1.fr.
Vivre avec la jeunesse pour rester jeune. Merci, Elena.
Que c'est beau.
À demain, Julia.
Sur Europe 1. Demain, Franck.